Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, Média.
Et on se retrouve dans un tout petit instant et on va prendre un peu de hauteur. Ce matin, on va parler cuisine. C'est le grand retour de Top Chef, 12e saison. Hélène Darroze et Michel Sarran, ça sent bon le Sud-Ouest, ils seront avec nous dans un tout petit instant. A tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Bonjour à toutes et à tous, un peu de joie, de bonheur, c'est leur métier. Les cuisiniers sont avec nous ce matin, les chefs Hélène Darroze et Michel Sarran. Bonjour Michel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Hélène Darroze ne devrait pas tarder à arriver. On va parler évidemment du grand retour de Top Chef. Voilà, elle finit ses hamburgers et de découper le jambon. Non, elle arrive bientôt, Hélène. Et on va parler de cette 12e saison de Top Chef, une créativité sans limite. Ça, pour le coup, l'émission porte bien son titre. On va en reparler dans un instant. Gilles, la question du jour, elle porte sur Top Chef, évidemment.
La question du jour, elle porte sur Top Chef. Vous pouvez aller sur le compte Twitter de Sud Radio pour répondre. Vous savez, chaque jour, il y a une question. Évidemment, je n'arrive pas à
la question, c'est est-ce que Top Chef vous a donné envie de cuisiner? Est-ce que vous avez eu envie de vous mettre à la cuisine en regardant Top Chef? C'est vrai que ça a suscité, je crois, un certain nombre de vocations. C'est ce qu'on vous dit ou pas, Michel Sarran? Ou en tout cas, d'envie de passer... en haut fourneau.
C'est sûr, et puis particulièrement la dernière saison qui est arrivée avec le premier confinement, et donc tout le monde regardait cette émission, ça a permis aussi de recuisiner en famille, de cette notion de partage qui est importante dans notre métier, et donc c'est une saison qui a extrêmement bien marché, ça crée des vocations aussi professionnelles chez des jeunes qui sont attirés par ce métier, donc tout ça c'est plutôt positif, exactement.
Allez, on va passer au zapping.
Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping.
Hier, Valérie, Carl Olive, que Patrick Roger recevait dans sa matinale, a fait sensation avec ses propos sur la suppression des aides pour les parents d'enfants délinquants. Il s'est exprimé aussi hier soir dans Touche pas à mon poste.
Quel message on envoie à l'immense majorité de cette population? Tiens, que je vais aller verbaliser avec les policiers municipaux demain sur du stationnement. Ils vont me dire, mais arrêtez de jouer de la trompette, vous êtes incapable de pouvoir surveiller ces jeunes à qui vous offrez, et tant mieux parce qu'on l'assume, parce que ça se passe très bien, on offre des aides qui sont facultatives. Mais encore une fois, ce n'est pas un chèque en blanc. Et moi, je ne veux pas rester les bras croisés.
J'imagine que vous allez revenir avec vos
on
débatteurs
va en parler sur tout à l'heure, effectivement.
Les propos de Carl Olive qui était aussi dans la matinale de Patrick Roger. Hier, Éric Dupond-Moretti était l'invité du 20h de France 2. Il a présenté une nouvelle loi sur la protection des mineurs.
Voilà ce que je peux vous annoncer aujourd'hui de façon précise. D'abord, nous allons toucher au seuil d'âge. Alors, je veux m'expliquer qu'est-ce que c'est le seuil d'âge. Un acte de pénétration sexuelle accompli par un adulte sur un mineur de moins de 15 ans sera un viol.
Ça veut dire qu'il n'est plus question de parler de consentement avant 15 ans.
Plus question pour l'auteur d'exciper de je ne sais quel consentement.
Alors on en reparlera demain à 10h30.
Voilà madame, toujours dans Touche pas à mon poste, après Carl Olive, Cyril Hanouna recevait Loana, vous savez cette figure emblématique de la télé-réalité. Elle est apparue fragile, mince, édentée, émouvante, et elle est revenue sur son parcours et ses années de drogue.
Il y a un moment que tu prenais de la drogue au petit déjeuner.
Oui, comme quelqu'un qui est alcoolique et qui boit son verre d'alcool le matin au réveil, ben moi je prenais de la drogue au matin au réveil.
Tu prenais quoi?
De la cocaïne, prenais un trait, ouais, jusqu'au soir.
Donc en fait,
toute la journée, ouais. On tombe dedans comme on tombe dans l'alcool, donc les gens ne font que boire.
Pourquoi tu prenais de la drogue comme ça?
Pour oublier, ça ne devient pas festif.
Oublier quoi?
Je voulais oublier ma vie.
Voilà, et Gilles, un auditeur, nous dit Loana, bête de foire pour le buzz chez Hanouna. C'est vrai qu'on a regardé ça un peu, pour ceux qui l'ont regardé, un peu comme avec des yeux de voyeur, en ayant un peu honte de regarder.
Moi, j'étais happé par les images. C'est vrai qu'elle n'avait pas beaucoup parlé. Après, elle est emblématique d'une génération et emblématique de gens qu'elle touche, et je pense que ça la sauve aussi d'être de nouveau dans la lumière. Non, vous pensez
je
pas
sais
vous
pas. Je pensez
que
pas.
Ça la détruit plus.
Ouais.
Moi, je voulais savoir, il y a des chefs qui consomment de la drogue pour tenir ou autre. Ça
mais
arrive
qu'est-ce que j'en sais
pas. Ah, mais je sais pas, excusez-moi.
En tout cas, en ce qui me concerne, non. Après, j'imagine que dans la cuisine, comme partout, enfin, nous sommes aussi des êtres humains comme les autres. Donc, j'imagine que certains se droguent, certains doivent boire, certains frappent leur femme, certains se font frapper, certains sont idiots, certains sont adorables. Il y a de tout.
Hélène Darroze vient de nous rejoindre.
Au bon moment.
Avec la question du jour de Gilles. Est-ce que les chefs se droguent? Non, mais vous êtes passé par des cuisines. Vous avez dû voir. Non, oui, mais oui, comme dans toutes les professions.
Franchement, ouais. Oui, c'est ça. C'est pas une... On n'échappe pas.
Vous répondez moins qu'à la télé. Voilà ce qu'il faut répondre.
Certainement, certainement. Et c'est un peu pathétique de voir Loana. Oui. Nous, ça va. Hélène est tout à fait en pleine forme. Nous sommes tous en pleine forme. On n'est pas touchés par ça. Et on prend pas. On prend. Voilà. Ah oui, un petit déjeuner toi aussi.
Hélène, ce serait une cuillère de graisse d'oie.
Allez, bon, on est le 10 février 2021, Valérie. Hein, le 10 février 2021. Et Quotidien a reçu hier les vœux de Jean Lassalle. Bon, je vous l'accorde. Il est un petit peu en retard, Jean Lassalle. Mais c'est l'intention qui compte. Mais vous allez voir que Jean Lassalle est beaucoup plus en retard qu'on l'imagine.
J'ai reçu les vœux de ce matin d'un député. Ils vous sont destinés aussi. Ils viennent du député des Pyrénées-Atlantiques, Jean Lassalle, président de Résistons. La carte, elle est là. Il y a le fronton de l'Assemblée ici, au recto, et il y a les Pyrénées au verso. Alors voici ses vœux. Vœux chaleureux les plus sincères, bien cher Yann Barthès, c'est moi, et la grande famille, c'est vous, du petit journal de Canal+, signé Jean Lassalle. Alors meilleurs vœux à vous aussi, monsieur le député, mais en fait, on n'est ni à Canal+, ni au petit journal depuis 5 ans. Mais ça nous a fait très plaisir et marrer aussi ce matin.
Voilà. Bon, je suis pas sûr que les gens sachent très bien non plus.
Quand même.
On dit beaucoup disent encore le petit journal. Vous avez le temps de regarder la télévision, Hélène, pour regarder.
Non, pas trop. Pas je voudrais dire que j'ai pas trop le temps de regarder. Non.
Même les séries.
Si les séries de ouais. Là, maintenant qu'on travaille plus le soir.
Ouais. Ça laisse plus de temps.
On regarde des séries
vous
avec mes filles.
Vous découvrez les séries.
Ah, exactement. C'est vrai que depuis le mois de mars dernier, je découvre les séries.
Ouais. Michel.
Oui, un petit peu aussi. Oui. Qu'on a un peu de temps libre et voilà, donc on découvre.
Et pour finir l'infomédia d'hier, c'était le départ de Ruth Elkrief de BFM, figure emblématique de la chaîne. C'était même elle qui avait fait le lancement en 2005. Et écoutez bien, en 2005, il y avait une info qui vous concernait.
BFM TV, 18h, Ruth Elkrief.
Bonsoir à tous et bienvenue sur la nouvelle chaîne de l'info que je suis très fière de lancer avec vous ce soir. Tout de suite, les titres à la une de BFM TV. Reprise du procès de Saddam Hussein, 2 heures pour écouter un premier témoin accablant. Opération escargot des hôteliers et des restaurateurs pour exiger la TVA à 5,5%. Jacques Chirac aura 73 ans demain, un anniversaire marqué par une crise de confiance avec les Français.
Voilà, avec la TVA à 5,5% que réclamaient les hôteliers. C'était en 2005 et les restaurateurs.
Avec André Daguin.
Oui, André Daguin qui se battait effectivement pour ça. Aujourd'hui, le combat, il est un petit peu différent, évidemment. Donc, Hélène Darroze est avec nous, chef 3 étoiles
bravo
à Londres. Bravo, Hélène. Récompensée par le Guide Michelin à Paris, 2 étoiles. C'est votre année, Hélène. Hein,
Elle commence bien, en tout cas.
Commence bien. Michel Sarron, vous êtes à Toulouse. Vous avez une étoile, deux étoiles. J'avais pas, pardon. Non, mais j'étais. Parce que je viens de voir. J'étais en train de taper le truc. Donc, on a
7 étoiles autour de la table.
Non, vous comptez mal. Oui, 7. Bah, si. Oui,
vous avez vu comment elle est C'est incroyable. Bien, ce
matin, peut-être un peu fatiguée ce matin.
Oui. Donc, 7 étoiles.
Prenez de la drogue au petit déjeuner aussi.
Bah oui, moi, tous les matins. Non seulement de la drogue et de l'alcool. Voilà. 7 étoiles en tout, des étoiles qui aujourd'hui ont du mal à exprimer leur art dans leur restaurant. Mais on va parler évidemment de la crise du Covid et ce que ça implique pour vous. Mais on va surtout parler de cette 12e saison de Top Chef, une créativité sans limite. Je vous propose d'écouter la bande-annonce de l'émission. Ça va vous mettre un petit peu dans le bain de cette émission. Moi, j'ai regardé la première. Ça décoiffe. Hein. Ça nous sort de la blanquette et du pot-au-feu.
On n'a jamais fait ça en 12 ans de Top Chef. Cette année, il faut que votre créativité, elle soit là.
Je vais vous demander de cuisiner avec un grain de riz.
Certains de vos plats ont plus de 300 ingrédients.
Nous prenons l'eau et progressivement, ça va cuire.
Les feux d'artifice dans la bouche.
Tant qu'à faire quelque chose pour un ouf, autant faire un truc de ouf. Taré.
C'est plutôt génial.
C'est un plat intelligent.
Je vais leur demander la recette après.
Mercredi 10 février, début de la nouvelle saison de Top Chef sur M6.
Donc ce sera ce soir à 21h sur M6. La créativité, c'est le mot d'ordre.
Sans limite.
Et c'est vraiment sans limite. Alors qu'est-ce que ça vous a... Parce qu'on s'est posé la question avec Gilles de savoir, est-ce que vous surjouez parfois la surprise ou vous avez vraiment été bluffée, Hélène ?
Oh non, on a été bluffés plusieurs fois. Là, cette année, on a été bluffés plusieurs fois. D'abord par les chefs, certains chefs qui sont venus du monde entier,
Aston
un peu.
Blumenthal,
hein. Aston, Angel Leon. Voilà, tous ces chefs.
Étonnant, André Leon. Ouais, c'est
Andoni aussi.
Andoni, moi, j'étais pas là pour
Andoni. Donc, les chefs qui ont été choisis sont des chefs qui sont réputés pour avoir une cuisine extrêmement originale ou non?
Oui, mais pas que, parce qu'on a retrouvé aussi les frères le père et le fils Marcon, père et le fils Brass. Enfin, mais voilà, c'est un petit peu toutes les mouvances autour de la cuisine.
Ouais. Et donc, vous avez été vraiment épaté par ce que vous ont fait les candidats et par les épreuves qui sont... Il y a des nouvelles épreuves, évidemment.
Je crois qu'on est d'accord avec Michel sur ce point-là. Pour nous, c'est la plus belle saison qu'on ait vécue en 7 ans. Parce que les candidats étaient top.
Ils le sont toujours, non ?
Oui, ils le sont toujours. Mais alors cette année, on a eu un vrai problème parce que c'était vraiment très homogène. Ouais. Très vite, on est arrivé avec un groupe de personnes qui avaient à peu près tous le même niveau. On n'a jamais su d'ailleurs qui... On savait pas qui irait en finale, on savait pas qui était susceptible de gagner. Et chaque fois, quand il fallait en éliminer un, ça se jouait dans un mouchoir de poche. C'était assez extraordinaire. Mais dans un mouchoir de poche, pas parce que c'était pas bien, parce que c'était à chaque fois un niveau incroyable.
Plus les conditions sanitaires qui faisaient qu'il y avait un rapprochement. Le soir, ils étaient confinés, ils étaient entre eux, et ils préparaient les épreuves du lendemain ensemble, alors qu'ils étaient finalement adversaires Et donc, c'était un climat... ça a créé une vraie complicité auquel on a assisté, qui était super. Vraiment, c'était une très, très belle année, comme le dit Hélène, avec un niveau de candidat, mais poussé aussi par les épreuves et par les chefs intervenants qui ont fait des trucs complètement fous. Ben moi, franchement,
auriez été capable, parce que vous êtes quand même des spécialistes. Mais c'est vrai qu'il y a des choses où des associations qui sont complètement démentes.
Alors est-ce qu'on aurait été capable? Alors, je sais pas. Moi, je me suis souvent posé la question. Je pense que j'aurais été à 25-30 ans. Je pense que j'aurais eu.
Ah, pas moi.
Mais pour rebondir sur la question de Valérie, est-ce qu'il y a des candidats qui sont meilleurs que vous?
Certainement pas. Sinon, je suis viré.
Ça veut dire quoi, meilleur?
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça
veut pas dire grand-chose, mais
c'est une démarche très particulière. Top Chef, c'est un concours où tous les jours
ils sont obligés de se dépasser.
Et donc nous, on vit pas ça au quotidien. Et cette adrénaline qu'ils ont tous les jours, nous, on l'a pour d'autres raisons. Enfin, c'est très différent.
Oui.
Je suis pas concours, donc...
Souvent, c'est ce qui fait la différence sur une épreuve ou quoi, c'est aussi les petits conseils qu'on leur donne, quand même. C'est toujours le petit plus, quand même.
Il y a ces feux verts, oranges, que vous leur donnez en les mettant en garde aussi.
C'est juste la première épreuve. Mais après, on les coach, et c'est vrai que... on est quand même là pour dire attention et pourquoi pas ça
et ça on le voit entre les épreuves qui vont être diffusées ce soir et l'évolution au cours des semaines, on voit que ça monte en puissance et c'est vrai qu'objectivement on peut se dire que on participe un peu à ça, à cette amélioration, mais ils font des choses formidables
Gilles nous dit Top Chef est la seule émission culinaire que je regarde, même si on n'est pas spécialisé de la cuisine. Une fois qu'on tombe sur l'émission, on est collé devant. Et petite question technique, que deviennent les plats une fois qu'ils sont cuisinés?
En général, on les mange. Nous, on commence à les goûter. Rothenberg est fini.
Stéphane, si tu nous écoutes.
Puis, il n'y a pas énormément de plats préparés. Par contre, on nous pose la question aussi pour les aliments qui restent. Eux, ils sont donnés au Resto du Cœur.
À la
Croix-Rouge.
Notre auditeur savait, mais il posait la question de savoir si, effectivement, les plats...
En général, ils ne restent pas beaucoup dans les assiettes. Non,
les assiettes, il ne reste pas grand-chose.
Mais est-ce que cette cuisine poussée j'ai envie de dire à l'absurde, parce que parfois, quand on a, vous allez le voir au tout début de cette saison, je me souviens plus avec quoi c'est fait, un savon, un plat qui ressemble à un savon avec des bulles de savon. Est-ce qu'on a envie de manger ça?
C'est la démarche volontaire. Par contre, c'est très bon.
Oui,
parce
c'est
que
très bon.
On mange pas du savon.
Non, j'ai bien compris, mais
c'est provoqué, c'est de la provocation, mais au final, la cuisine, elle a qu'un but quand même, hein. C'est d'être bonne et de créer des émotions. Donc, en perturbant comme ça tous les réflexes et en créant une...
Mais c'est ça la cuisine ?
Ça, pourquoi pas ?
Ouais, enfin, c'est la cuisine de certains chefs, c'est la cuisine, c'est Andoni ça, c'est Andoni et Andoni...
Adorni, c'est un chef qui a deux étoiles Michelin au Pays Basque.
Voilà, au Pays Basque, son restaurant s'appelle Mugaritz. Et voilà, c'est sa démarche à lui, on le sait, on le connaît. Et il est apprécié par ça et on y va pour ça.
Oui,
et
comme on allait chez Ferran Adria.
Exactement, exactement. Pour vivre une expérience. Après, c'est pas ma cuisine, c'est pas celle de Michel et c'est pas celle des candidats non plus, il faut quand même le dire.
Elle a évolué, la cuisine du Sud, puisqu'on est sur Sud Radio. Elle a beaucoup bougé. Pas tant que ça, en fait, elle reste...
Bah, c'est à Michel,
Je pense qu'elle évolue.
Sinon, ça voudrait dire quoi? Qu'elle reste engluée dans ses racines, dans son cassoulet, dans son... Non, bien sûr qu'elle évolue, parce que le Sud évolue comme la société évolue, et heureusement.
Mais qu'est-ce que, par exemple, chez vous, qu'est-ce qui pourrait m'étonner?
Ben tout, j'espère. Tout. Il faut venir.
Ben oui, je vais venir.
Non, mais bon...
Quand ce sera ouvert.
Oui, c'est ça. Moi, je fais une soupe de foie gras à l'huître. C'est vrai qu'avant, on ne mettait pas forcément de l'huître avec le foie gras. Ouais. Même si aujourd'hui, c'est moins fou que ça pouvait l'être quand j'ai créé cette soupe. Mais après, on essaie de dépoussiérer un peu la cuisine, de la faire vivre au rythme du... Parce qu'en fait, je suis un cuisinier urbain aussi à Toulouse. Ouais. C'est une grande ville. Ouais. Et donc, avec les influences et les métissages qu'apporte cette ville.
Elles étaient cuites, les crevettes d'Angel Leon?
Ah, ça, faut expliquer à nos auditeurs.
Alors, elles étaient cuites à la nacre, hein, comme on les aime.
Parce qu'elles avaient l'air un peu crues, justement. Je me suis posé la question.
Elles étaient cuites à la nacre.
C'est très étonnant. Il a mis de l'eau, du sel. Et cette émulsion chimique, en fait, fait que les crevettes, exactement, sont des crevettes crues, des gambas, et ça cuit.
Ça fait une cuisson instantanée, qui était le thème de l'épreuve, la cuisson instantanée.
Il a mis assez longtemps, je crois, à arriver à ce résultat-là, mais... Mais c'était dingue. Ouais.
Et les chefs étrangers, quand ils viennent sur le plateau de Top Chef, ils sont bluffés aussi. Vous avez discuté avec eux et ça existe.
Je crois qu'Angel Leon, il a été séduit par tout ce que les candidats ont fait là. Eston, il est arrivé sur la fin, donc c'est sûr qu'il a plus que les meilleurs. Ouais. Mais Angel, il était quand même bien. Il y avait beaucoup de candidats. Il y a eu quand même des choses surprenantes. Hein.
Ça, on voit que c'est une vraie évolution depuis le début de la diffusion de Top Chef. Aujourd'hui, tous ces chefs mondialement connus veulent participer à Top Chef en France. Cette année, on a eu des chefs extraordinaires. L'année passée aussi, mais tous les ans, c'est un peu plus, quoi.
Vous évoquiez Guy Savoie, qui n'avait jamais participé à Top Chef, et j'ai entendu que c'est ses équipes qui l'avaient bousculé.
C'est ses équipes, d'accord.
Ouais, okay. C'est ses équipes qui l'ont bousculé, et lui, il leur a demandé de faire des soupes.
Une soupe, comme sa mythique soupe d'artichaut. Mais après, il y a eu les Brasses, qui, pareil, n'avaient jamais été là. Il y a eu Pascal Barbeau, qui est venu deux fois en plus. Ouais, il a tellement aimé qu'il est revenu sur une deuxième émission.
Mais là, on est d'accord que ce sont des recettes qui sont difficiles à refaire pour la ménagère, on va dire, ou pour le ménager.
Oui, certainement.
Ça demande des techniques. On peut prendre des idées, mais...
Parce qu'il y a des alliances, je crois que c'est réglisse ou le dessert avec les oignons. Il y a plein de choses très originales. Des pommes de terre aussi, j'ai vu.
Des pommes de terre en dessert.
Vous avez vu comment elle a été passionnée,
regardez
l'émission. Ouais, on sent la
gourmande. Le but, c'est plus de montrer cette magie de notre métier que de donner des recettes à refaire à la maison. C'est sûr, la beauté du geste, tout. Mais ça, quand même, comme on disait en préambule, ça incite à se remettre en cuisine, à cuisiner en famille. Et ça, c'est très bien. Sans pour autant faire les recettes que l'on va voir dans Top Chef. Donc certaines sont très compliquées.
Et quand vous voyez Maurice Sacco, donc, qui va arriver sur France 3 dans 15 jours, Maurice Sacco va avoir une émission de cuisine qui va être diffusée sur France 3. Voilà, il va avoir une émission sur France 3 où il va revisiter des plats et les mélanger à plusieurs de ses cultures, évidemment. J'imagine que c'est une fierté quand vous voyez qu'il a une étoile, que...
C'est super.
Ah, oui, il y en a beaucoup qui sont sortis de Top Chef. Vous y êtes depuis combien de temps?
C'est comme Michel,
on fait 7 ans. C'est la 7e saison.
On en a vu beaucoup.
Cette année, Colline Folquier, qui est à Marseille, qui a eu son étoile aussi.
Et aussi, je ne sais plus comment c'est, Baptiste, non?
Baptiste,
voilà, il y a eu trois anciens candidats.
Et qui ne sont pas forcément les gagnants de Top Chef, d'ailleurs.
Qui ne sont pas forcément les gagnants, non. Les gagnants.
Alors, il y a aussi Paul Perret qui est avec vous, Christian, Philippe Etchebest, à chaque fois je me trompe, et puis pour Stéphane Rottenberg qui présente, et Paul Perret, donc, est assigné à résidence, j'entendais.
Pour l'instant, voilà. Je ne sais pas. Ouais. Hier, il avait un rendez-vous important pour son visa.
Il a déposé la demande de visa. Avec lui, là, il n'a pas d'informations
depuis. Il ne peut pas repartir, oui, il faut dire qu'il a des restaurants à Shanghai.
Oui, j'ai l'impression que la Chine n'est pas pressée de le récupérer.
Il n'a pas l'air très pressé de partir.
Et qu'est-ce qui se passe pour ces restaurants, vous le savez ou pas? Ils sont fermés ou
non, ils sont ouverts. Ils sont ouverts. Mais bon, Paul, il travaille d'une façon. Il dit, chez moi, tout est tellement au point. Quand on sort un plat, c'est tellement. Il met 2 ans pour faire un plat, Paul.
Il ne faut pas avoir faim.
En tout cas, il s'est bien intégré à l'équipe. On a l'impression qu'il est là depuis des années. C'est sa deuxième saison.
Non, mais c'est génial parce que tout le monde trouve sa place avec des personnalités différentes,
parce qu'avec ces trois moustiques là.
Oui, c'est la seule femme.
J'ai été gentil jusque-là, donc vous voyez la vérité, c'est insupportable. Entre Paul Perret qui parle, on ne comprend rien à ce qu'il dit, Philippe qui fait du bruit sans arrêt, il lui faut toujours une batterie, et Hélène qui n'est jamais dispo parce qu'elle a ses enfants, elle est toujours au téléphone, etc. C'est un enfer. La vérité, c'est celle-là. On se déteste tous, mais bon, on fait semblant.
Il vous faut une émission à vous tout seul. J'envie
Maury.
Quels sont les courriers de spectateurs, de téléspectateurs que vous avez reçus les plus originaux, ou les demandes que vous avez eues? Est-ce qu'il y a eu des choses? Maintenant, vous êtes
Michel, il en a plein, lui.
C'est vrai?
Vous êtes des stars. Moi, j'en ai pas, mais lui, il en a plein.
Non, mais des trucs.
Des lettres d'amour.
Il y a beaucoup de
déclarations.
Beaucoup de déclarations, mais après des demandes complètement folles. Mais ça, je crois qu'on en avait déjà parlé. De personnes qui font appel à moi pour que je les aide dans l'éducation de leurs enfants. mais je pense qu'ils se sont. C'est ce que j'ai répondu. Ça, c'est Super Nanny. C'est pas Top Chef. Moi, je suis pas. Je fais pas encore ça.
Ah bon?
Mais il y a des demandes qui sont surprenantes. Bon, après, voilà.
Il y a des filles qui vous envoient des photos?
Oui.
Aussi. J'ai appris ça. Moi, j'ai pas eu de photos.
Vous avez rien eu?
Filles,
j'ai des déclarations aussi, des déclarations un peu amoureuses venant de garçons.
Celle-là, tu me l'avais pas dit.
Oui, mais j'en ai eu une hier.
Qu'est-ce qu'il vous disait?
Alors, en plus, la personne avec qui je partage ma vie tombe sur le message, me dit, non, mais dis donc... Et j'ai dit oui, mais regarde, c'est Bastien qui m'envoie ça. Bon, ça va alors.
Se méfier quand même.
C'est amusant, mais c'est vrai, beaucoup de messages.
Alors, Gilles, qui n'écoute pas que Sud Radio, qui est très fidèle à Sud Radio tout de même et à Top Chef, nous dit: Paul a parlé sur une radio concurrente ce matin, il part en principe à la fin du mois, il a eu son visa.
J'étais avec lui, il n'a pas eu son visa.
Alors, il a
plein son visa. Oui, mais il ment beaucoup aussi.
Il faut écouter Sud Radio. C'est tout, mais la vérité
alors,
est chez
nous. On va y revenir. On a un auditeur qui nous dit: ras-le-bol de voir ou d'entendre ces restaurateurs étoilés sur toutes les radios et télé. 99% des Français n'auront pas les moyens d'aller déjeuner chez eux. Eh bien, écoutez, on va en reparler justement.
En livraison, c'est pas cher.
On va parler de cette adaptation justement de la cuisine en période de Covid. Et je pense que vous vous trompez, Marcel, parce que beaucoup de gens cassent la tirelire, économisent parfois. Je me souviens, c'est ce que disait Bernard Loiseau, pour aller célébrer un événement dans ces restaurants gastronomiques qui représente tout de même la fierté de la France et une certaine tradition. Donc, plutôt que de voir le côté négatif des choses, essayez de voir le côté positif. Oui, et on peut parfois, il y a des menus déjeuner. C'est pas moi qui vais faire
On peut aller dans 1 ou 2 étoiles pour 45 euros et c'est une expérience.
Certains 40 euros, c'est déjà énorme pour manger. Donc, ça se discute pas, mais c'est pas pour ça qu'il faut nous mettre au pilori et dire que c'est pas acceptable.
Il faut aussi dire une chose. On va y revenir, mais que les restaurants gastronomiques sont ceux qui gagnent le moins d'argent. On va y revenir, à tout de suite.
Sud Radio, parlons vrai.
Sud Radio, parlons vrai.
Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, Média.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble avec vous pour parler de Top Chef, pour parler de la situation des chefs également. Philippe Etchebest, qui est à vos côtés dans Top Chef, s'est fait un peu le porte-parole des chefs en difficulté. On est avec Hélène Darroze, 2 étoiles à Paris pour Marsan, 3 étoiles pour le restaurant du Connaught à Londres, et Michel Saran, 2 étoiles à Toulouse. Et vous avez tous été obligés d'adapter votre activité, compte tenu du fait, et votre cuisine aussi, oui, absolument. Donc, déjà, la situation, vous avez des informations sur la possible réouverture, Michel Saran ?
Non, on n'a aucune information. Et puis, bon, se réadapter, ce n'est pas vraiment une réadaptation, hein, parce qu'on a quand même tous nos restaurants qui sont fermés, tout notre personnel en chômage, enfin là, je parle pour moi, chômage partiel. Enfin, la situation est juste dramatique. Ouais. Aucune perspective et donc aucun signe d'une reprise, d'une réouverture de nos restaurants. C'est pas aujourd'hui, on parle de septembre, certains parlent de la fin d'année.
On est déjà à plus de 100 jours de fermeture.
Plus de 100 jours.
100 jours depuis novembre, le deuxième confinement.
Non, plus que ça. Parce que
on a fermé mi-octobre.
On a fermé 6 mois en tout.
Ouais.
Oui. 3 mois sur le premier confinement, 3 mois sur le deuxième.
J'ai entendu qu'il y a un certain nombre de restaurateurs qui ne pourront pas réouvrir, parce qu'il faut parler des charges que vous avez. Enfin, c'est le cas des commerçants. Ils peuvent ouvrir aujourd'hui, mais
il y a des restaurateurs qui ne rouvriront pas. Des fournisseurs, moi, m'ont déjà prévenu qu'ils ne seront pas là à la réouverture. Donc, c'est dramatique. C'est pour ça que j'entends votre auditeur qui parle de ce domaine un peu prestigieux et que tout le monde peut pas se payer. Il faut savoir comment fonctionne un restaurant. Et les restaurants gastronomiques ont une très faible marge. Et on fait travailler des producteurs, même s'ils vendent de la truffe, c'est pas pour ça qu'ils roulent en Rolls. Non. Même s'ils vendent des produits de luxe, c'est pas pour ça qu'ils sont dans le luxe. Et je trouve ça complètement dommage de dire ça. C'est pas du tout la réalité de notre métier.
Non, mais c'est pour ça que j'ai cité ce message, parce qu'il représente ce que pensent un certain nombre de gens. Sandra nous dit vu le peu dans les assiettes des restaurants gastronomiques, on doit avoir faim après.
Ah, mais non,
c'est des clichés.
C'est des clichés, voilà. Mais Hélène, vous commencez à... Donc vos restaurants sont fermés. En plus, vous venez de relancer Marsan. Donc beaucoup se sont mis au click and collect.
Ouais, moi, c'est vrai que j'ai investi dans les 18 mois précédents le confinement.
Vous êtes endettée.
Je me suis endettée sur deux restaurants, bien endettée. Et c'est vrai qu'ils sont fermés aujourd'hui. Alors j'ai de la chance parce que mes banquiers, pour l'instant, ont gelé les remboursements. Mais jusqu'à quand, je ne sais pas. Et puis en plus, on s'est re-endetté avec les PGE parce que il fallait que on honore les encours, quoi. Hein, et les encours en général, on les honore on n'a pas de trésorerie d'avance, donc on les honore par le chiffre d'affaires qui rentre. Donc quand il rentre plus, il a fallu se re-endetter avec les fameux PGE qu'il va falloir rembourser en plus de nos dettes. Donc et les restaurants sont fermés. Alors moi je fais en effet du de la vente à emporter, click and collect, mais aussi avec des systèmes de livraison sur les grandes villes comme Paris ou Toulouse, on a la chance d'avoir des plateformes sur lesquelles on peut s'appuyer, ce qui n'est quand même pas le cas de beaucoup de restaurants en province, qu'ils soient étoilés ou pas. Michel Guérard ou un Gilles Goujon, de la vente à emporter à Eugénie-les-Bains ou à
Fonjoncouge,
sûr que ça marche pas, quoi. Hein, c'est pas lié à quelque chose qui nous permette de couvrir certains frais, mais pas tous. Il faut pas rêver. On perd un peu moins d'argent, on va dire.
Ça permet de faire travailler aussi votre personnel.
Ça maintient ce lien.
Comment vous avez fait, vous, Michel Saran, à Toulouse ? Parce que ce n'est pas de la cuisine gastronomique que vous proposez à emporter.
Non, mais moi, j'ai décidé de plus le faire.
Ouais,
sur le premier confinement, je faisais des menus, mais moi, des menus dans un prix de l'ordre de 45 euros, ça ne correspondait pas vraiment à ce que j'aime faire et, ouais. et j'ai préféré arrêter. Donc j'en ai fait un petit peu pour les moments festifs, ouais. la période ouais. de fin d'année où j'ai fait quelques ouais. plats, en mettant en avant justement des produits mais complètement oubliés, souvent comme la truffe, le foie gras, où les producteurs, les éleveurs ont besoin un petit peu de qu'on les aide. Donc j'ai fait ces produits de luxe. Et là, je fais aussi pour la période de la Saint-Valentin sur trois menus. Bon, tout est parti très très vite, mais c'est tout. Après, moi j'ai créé,
oui, vous avez créé autre chose,
mais qui à part, c'est ouais. avec mes filles, un concept mmh. autour du croque-monsieur, qui est très dans l'esprit, enfin ouais. dans l'esprit
street food,
fast food, enfin très léger, le croque-monsieur Globetrotter, on en a ouvert un à Toulouse, un deuxième qui ouvre prochainement, puis Paris, Gare de Lyon, normalement le 26 avril, et un autre rue de Faubourg-Poissonnière qui va suivre, mais c'est un autre concept.
Mais est-ce que c'est quelque chose que vous auriez fait s'il n'y avait pas eu la pandémie?
Oui, c'est oui, tout à fait, c'était déjà dans les tiroirs ouais. avant la crise. Ensuite, il y a eu donc il y a eu la fermeture et j'en ai profité pour tester ce concept avec dans mon restaurant, en faisant les croque-monsieur dans le restaurant, en utilisant les plateformes pour voir un peu quel était l'écho, et ça a bien fonctionné. Donc
c'est très français en fait, le croque-monsieur.
Le croque-monsieur, c'est très français.
On le trouve pas dans beaucoup de pays.
Non, mais on le trouve pas beaucoup en France non plus.
Non plus. Ouais. Le bon croque-monsieur.
Il y a pas tellement de chaînes ou de restauration comme ça qui l'utilise. Ça reste souvent un produit dans une carte, dans une carte de snacking ou autre, mais il n'y a rien autour du croque-monsieur, comme ça peut être le cas autour du panini ou de la pizza ou de tous ces plats très populaires, finalement.
Ouais. Hélène, vous avez fait aussi en vente à emporter des burgers.
Voilà,
des
nous, on a sorti une ligne de burgers.
Avec du foie gras, parfois.
Il y en a un avec du foie gras, en effet. Il y en a des plus classiques. Enfin, des plus classiques. Non, ils sont pas très classiques, d'ailleurs, mais ils sont pas très classiques. On utilise des ingrédients qui viennent pas mal du Sud-Ouest. La viande vient des Landes, le bœuf vient des Landes. Les fromages, en général, viennent du Pays Basque. Ouais. Et il y a un mélange de les cornichons sont remplacés par des guindillas.
C'est quoi les guindillas?
C'est des petits piments.
Des petits piments, des petits piments au vinaigre, voilà, c'est ça. Et puis on fait le ketchup nous-mêmes, on fait le pain nous-mêmes. Donc c'est des burgers un peu premium, mais accessibles. Et c'est pareil, quoi. Je pense que c'est une activité que peut-être on n'oubliera pas quand on réouvrira les restaurants. Peut-être
alors,
qu'on
pour quelque chose.
Un auditeur qui nous dit, dites à Hélène Darroze que mon dernier très bon souvenir resto avant de quitter Paris pour Bruxelles, c'était chez Joya. Ah. J'avais pris du cochon de lait, quel pied.
Alors, je vais continuer sur cette chose-là. Si vous faites livrer, vous habitez la région, alors on va être un peu parisien, la région parisienne, le menu de Hélène Darroze pour la Saint-Valentin, c'est une terrine de foie gras de canard au sud-ouest, au baies de Timothée, Chanette, fruits du moment.
Ne vous lancez pas dans des trucs que vous savez pas.
Vous savez comment aller, ça. Mais moi, je le mange, excusez-moi.
Non, non, le timut. Timut, voilà.
Vol au vent, riz de veau, salsifis et champignons de Paris, sauce au vin jaune d'Arbois. Ouais. Ça va, ça c'est bon, ça. Et puis, noix de coquille Saint-Jacques rôties aux épices, tandoori, mousseline de carottes, aux agrumes et aux confits.
Mais il n'y en a plus, parce que, pardon, juste une chose, c'est que c'est en organisation, la livraison, c'est quelque chose, enfin, le click and collect, c'est quelque chose de très compliqué. Sur la présentation, vous ne pouvez pas mettre ça dans des plats, dans des trucs en plastique.
Non, surtout pas de plastique. Ouais. Hein. Et donc c'est beaucoup, beaucoup de travail. Ça demande en fait beaucoup de main-d'œuvre. Enfin, quand on veut le faire comme on aime faire les choses, c'est-à-dire.
Mais alors, une question quand on vient chez vous et sur des plats à emporter, est-ce que c'est compliqué d'arriver chez nous? Parce que ça peut arriver froid, on le fait réchauffer. Comment on fait sur on a payé un peu cher, on fait
ce menu-là, il arrive froid, hein, de toute façon. Ouais. Les burgers, eux, ils sont livrés chauds. Mais ce menu-là, il arrive froid. Mais après, voilà, il faut retravailler toute notre cuisine de manière à ce que, ce soit adapté.
En aucun cas, vous pouvez retrouver dans la vente à emporter le travail que l'on fait, qui est hyper minutieux, qui est à la minute, que l'on fait dans nos restaurants. Ça, c'est clair qu'il y a... D'abord, et ce ne sont pas les mêmes prix non plus. Donc, il y a une adaptation. Et vous avez un geste à faire pour remettre un petit peu en température ou dans de bonnes conditions le plat que vous avez acheté à emporter, enfin, le menu que vous avez acheté à emporter. Bon, à vous de bosser aussi un peu, quand même.
Oui, très bien.
Alors, moi, je tiens à préciser. Moi, La cuisine que je fais à emporter, c'est sous la marque Gioia. Hein. C'est vraiment de la bistronomie plus que de la gastronomie. Quoi.
Alors, il y a un chef qui m'a raconté que dans ses plats, il a fait du click and collect et il reçoit un coup de fil qui lui dit j'ai bien reçu les plats, mais le chef arrive à quelle heure? mais ils ont cru que c'était le chef vient à domicile.
Oui, mais j'ai eu des demandes comme ça. Écoutez, c'est l'anniversaire de ma femme, est-ce que vous pourriez venir tel jour il nous faudrait un menu de deux personnes et avec vous, quoi.
Bah oui, bien sûr.
Mais là, la personne était très étonnée que le chef ne soit pas là. Alors, il y a un auditeur qui nous demande, Hélène, si vous seriez capable de faire un casse-croûte au hareng.
Un casse-croûte au hareng, oui, je pense que oui. Hein.
Moi, j'aime bien les harengs, s'il peut nous préciser pourquoi.
J'aime beaucoup les harengs, pourquoi
Non, je ne sais pas pourquoi cette question, je vous la transmets. Donc,
Et puis, alors, pour finir, la situation à Londres, vous avez eu 3 étoiles sur votre restaurant de Londres. Là aussi, ça va être compliqué de le réouvrir, parce que Londres, c'est encore pire que la France.
On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Alors, on fait un peu de vente à emporter aussi, que le samedi, là-bas.
Quel plat fonctionne le mieux à Londres ?
Alors, on fait un menu. Nous, on fait un menu. Ouais. Et alors, il y a toujours un foie gras, comme là. En général, il y a toujours une coquille Saint-Jacques, parce qu'on la présente en coquille. Il n'y a plus que la coquille à mettre au four tant de minutes et puis clac, on coupe la ficelle, on ouvre la coquille et on mange. Mmh. Et après, il y a une viande confite ou alors on peut aussi faire un pitivier. Je crois que cette semaine, c'est un pitivier.
Ah, ils aiment bien les tours avec les Anglais.
Chevreuil.
Voilà. Et est-ce que vous regardez les audiences le matin, le lendemain matin de Top Chef ?
On nous les envoie.
C'est le premier message qu'on a le jeudi matin en général. C'est
et vous stressez ou pas ?
C'est que tu te lèves tard alors, parce que ça arrive à 10h quand même.
Oh non.
9h. Ah bon ?
9h. 9h, on a les audiences.
Je sais pas si elles sont. Mais vous êtes angoissé ou pas ? Vous vous demandez si ça va marcher ?
Moi, pas trop.
On a envie que ça marche, bien sûr. Ça fait plaisir de voir la dernière saison, le score de la dernière saison. Après, le stress en ce moment, on l'a plutôt ailleurs.
Vous l'avez beaucoup, oui. 3,5 millions, plus de 3,5 millions, 3,6 millions l'année dernière.
Oui, belle pointe.
Vous avez fait des
très bons. Je veux bien savoir quand même demain. Parce que je trouve que les gens l'attendent tellement, mais tout le monde en parle, tout le monde m'arrête, tout le monde. Donc, il me tarde de savoir, vu le succès de l'année dernière et vu qu'on se retrouve dans la même situation, en fait, les gens ne peuvent pas sortir.
Ça a été moins la loose que l'année dernière pour vous, Michel Sarran ? L'année dernière, ça avait été dur, vous avez perdu.
L'année passée, c'était un peu compliqué, je l'avoue. Mais bon,
et cette année,
on verra. Eh ben, je ne peux pas vous dire.
Non, mais vous pouvez nous dire, ça va être...
Bon, je n'ai pas l'air trop déprimé quand même. Là.
Non, ça va. Bon.
Hélène non plus.
Kentou nous dit, n'oubliez pas vos compagnons de galère, ils n'ont pas la chance d'être sur M6, mais ils sont les représentants et les porte-parole. C'est ce que fait... Non, mais ça vous énerve, effectivement.
Mais oui, parce que finalement, on a l'impression qu'on essaie de défendre quand même aussi la
bien
profession.
Bien sûr, c'est ça. Ouais.
Je vois, on a fait tous suffisamment d'interventions.
Absolument, vous êtes intervenu plusieurs
fois. Après, qu'est-ce qu'on fait
fois,
On va tout arrêter pour être solidaires, comme si on n'était pas solidaires.
Mais non, mais au contraire,
mais nous aussi, on souffre.
Bien sûr, tous, vous souffrez. C'est
incroyable.
Sauf que c'est pour ça qu'il faut le dire. C'est pour ça que je lis ces messages, parce qu'on a le sentiment que parce que vous êtes à la télé, vous roulez en Rolls et vous avez des palais, que vous jetez des billets. C'est pas le cas. Vous êtes endettés pour la plupart d'entre vous sur des très, très grosses sommes, sur de très nombreuses années. Ce sont des investissements, c'est une passion qui vous anime. Et quand on voit Philippe Etchebest qui a pris la tête, justement, de cette...
On ne peut pas dire qu'il est pris la tête. Tous les chefs qui ont un peu d'audience et qui ont un peu de reconnaissance manifestent. Après, bien sûr qu'on est privilégié.
Bien sûr.
On est bien conscient qu'on est privilégié, que les médias s'intéressent à nous, que... On a de la chance, mais c'est pas pour ça qu'on est...
Mais vous l'avez dit et vous avez évoqué aussi tous vos fournisseurs et tous les gens qui sont... ils sont tous autour de, effectivement, solidaires de ça. Alors, notre auditeur nous dit pour la simple raison que j'aime les... que c'est toujours des sandwichs au pâté, aux rillettes, mais jamais au hareng. Et moi, j'adore le hareng.
Moi, je suis comme lui.
Une
rillette de hareng, c'est très, très bon.
Et comment vous faites la rillette de hareng ?
Comme une rillette normale, quoi. Ouais. Hein, on la monte avec de la matière grasse.
De la matière grasse,
on réduit... au mortier ou au mixeur.
Exactement. Un petit peu de mayonnaise peut-être ou de fromage blanc.
Ouais, de la mayonnaise.
On va y penser. Ce sera une épreuve de Top Chef l'année prochaine pour notre auditeur. Merci Hélène Darroze, merci Michel Sarron. On vous souhaite bonne chance, bon courage, parce que c'est difficile ce que vous vivez en ce moment, vous les chefs, quelle que soit votre catégorie étoilée, non étoilée, bistrot, on y pense. Et puis les producteurs aussi, tous ceux qui travaillent avec vous, les vignerons qui ne vendent plus leur vin, les éleveurs qui ne... Enfin, il y a toute une chaîne.
Les arts de la table.
Voilà, les arts de la table.
Il y a beaucoup de choses.
Merci à vous. Et ce soir, donc 21h, Top Chef, vous allez être vraiment bluffés parce que ça décoiffe. Merci à vous.